Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
On est de retour sur les ondes de CFAQ 88.3. Dernier petit tour de table de l'actualité du jour, parce que ça n'arrête pas.
Ben oui, c'est
littéralement.
Ça. Ben oui, c'est ça. J'avais une dernière petite chronique là, pour finir l'émission. On a tout entendu parler de la chute du régime de Bachar al-Assad en Syrie. Mais je voulais faire un petit retour. Ben, là, qu'est-ce qui se passe là? Puis un petit peu, faire un petit tour de la situation en ce moment. Donc, donc, je vais vous parler un petit peu de tout ça. On va faire un petit résumé aussi. Donc, le 8 décembre 2024, on a tous et toutes assisté à la chute du régime du clan Assad qui dirigeait le pays d'une main de fer depuis à peu près 50 ans. La Syrie était aux prises d'une guerre civile terrible depuis 13 ans, puis terrible est un euphémisme.
Oui, oui, oui.
On y associe plus de 400 000 morts, probablement un des pires conflits des temps modernes. Là, c'est absolument terrible. Donc, plus de 400 000 morts, recours massif à la torture, au viol, la détention massive de prisonniers politiques et l'utilisation illégale d'armes chimiques qui lui a valu, entre autres, un mandat d'arrêt pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre par la France. C'est ça, il y a des rebelles qui ont mené à la chute du régime Assad. C'est pas l'Occident qui a mené cette charge.
Ouais.
C'est en fait Abu Mohamed al-Julani du HTC. En français, ça s'appelle Organisation de libération du Levant. On va garder l'appellation HTC, c'est ce qui est communément utilisé pour décrire ce groupe-là.
Mm-hmm.
C'est un groupe anciennement djihadiste associé à Al-Qaïda. Ce que al-Julani dit n'est plus du tout. Donc, al-Julani dit que le chef du parti du HTC dit qu'il n'est plus du tout associé à Al-Qaïda.
Ouais.
Donc, le 28 juillet 2016, le HTC se sépare d'Al-Qaïda pour protéger justement la révolution syrienne et empêcher que la communauté internationale arrête de les associer à un groupe terroriste et être exclusivement associé. Ils veulent être exclusivement associés à un mouvement syrien.
Okay.
Ça n'a pas fonctionné, je te le dis tout de suite. Là.
Ouais.
novembre 2024, après une offensive soudaine, le HTC réussit à prendre Alep, Hama et ensuite Homs. Ensuite vient une série de prises de ville et la chute de Damas où quelques membres du HTC sont présents, mais il était juste un petit groupe de personnes était présent à la chute de Damas. Abu al-Julani est considéré comme avoir été l'homme fort de la situation. Le HTC, c'est ça, comme je disais, c'est une organisation considérée terroriste par les États-Unis, le Canada, la Turquie, la France et l'ONU. Entre autres, dû à leur association précédente avec Al-Qaïda, pour laquelle, je répète, Abu al-Julani soutient ne plus être associé à Al-Qaïda. Et petite précision là, par rapport à les États-Unis. Les États-Unis, si tu as été de proche ou de loin associé à Al-Qaïda, t'es automatiquement une organisation terroriste.
Ouais.
Fait que ils ont jamais eu une chance. Et je crois que c'est qu'il y a un des... Donc, le HTC, c'est un amalgame de plusieurs groupes révolutionnaires, militaires. Donc, il y a vraiment plusieurs groupes associés à ça. Puis, il y en a un en particulier qui est encore considéré comme étant associé à Al-Qaïda ou avoir été un ancien groupe d'Al-Qaïda. Donc, tout le groupe du HTC est considéré Al-Qaïda. Donc, il faudrait qu'il se sépare complètement de cette entité-là pour que les États-Unis ne les reconnaissent pas automatiquement comme étant terroristes. Mais bon, petite parenthèse. Bon, qu'est-ce qui va devenir de la Syrie? En soi, il y a une réelle volonté de mettre en place un gouvernement de transition efficace pour le bénéfice de la population syrienne, comme le soutient al-Julani, le chef du HTC. En revanche, la Syrie a vraiment besoin d'aide et n'est pas stable malgré le nouveau gouvernement. 13 années, c'est ça?
Ouais.
13 années de guerre civile. Tu te relèves pas de ça facilement.
Non, c'est ça.
Le gouvernement est complètement à terre et le gouvernement de Bachar al-Assad avait été... J'avais fait une chronique par le passé là-dedans. C'était devenu comme un état, un narco-état que pratiquement. Là, donc, la famille Assad qui était très impliquée pour dans la création de drogues, d'amphétamines, si je me souviens bien. Je me souviens plus le nom exactement de cette amphétamine-là, mais... Donc, revenir de tout ça et pouvoir mettre en place les bases d'un État, c'est pas facile. Et ça, Al-Julani veut quand même remettre un État sous les bases de la charia. Donc, c'est ça. La Syrie n'est pas stable et il y a certains contacts avec l'Occident et la communauté internationale. Mmh, mmh. Donc, il y a des tentatives de les aider là-dedans et d'avoir des contacts et de savoir, comment on peut t'aider là-dedans.
Ouais.
En revanche, l'État islamique, elle existe encore. L'État islamique est là et guette le chaos depuis, entre autres, le désert syrien. D'ailleurs, les bombardements américains suite à la chute du régime Bachar al-Assad sont clairement une façon de dissuader les forces djihadistes d'agir. Les Américains ne souhaitent pas refaire, je veux pas dire la même erreur, mais bon.
Ils veulent pas prendre de chance.
Ils veulent pas prendre la chance, la résurgence de l'État islamique. Ils ont bombardé. Donc, l'État islamique, avant la chute du régime Assad, avait repris un peu du poil de la bête. Là, selon le Pentagone, entre 2023 et 2024, les attaques perpétrées auraient doublé. Entre 2023 et 2024, donc les attaques auraient doublé. Le groupe compterait aujourd'hui plus de 2500 combattants en Irak et en Syrie. C'est une résurgence inquiétante, mais elle est connue. Justement, le Pentagone regarde ça de près, en effet. On a quand même peur que l'État islamique profite de la chute de la dictature de Assad et des balbutiements du nouveau gouvernement pour tenter d'établir son autorité dans un pays ensanglanté et profondément divisé. La diminution de l'État islamique dans les dernières années a été entre autres menée par une offensive des forces kurdes. Les Kurdes, c'est une population qui souhaite fonder le Kurdikistan, qui est à cheval sur la Syrie, la Turquie, je me souviens plus l'autre pays, mais dans ce petit bout-là, les forces kurdes y étaient armées et soutenues par les États-Unis. D'ailleurs, les Turcs considèrent les Kurdes comme étant une organisation terroriste, entre autres parce qu'ils veulent faire un État sur leur pays. Ils veulent revenir un bout de pays. Les Turcs sont des alliés des États-Unis, en tout cas.
C'est ça. C'est grosse guerre politique.
Il n'y a pas pour rien que ça a duré 13 ans, la guerre civile syrienne. Ouais. C'était un conflit. C'était une guerre civile au sein même de la Syrie. C'était une guerre régionale. Et les forces internationales étaient aussi mélangées à ça. Donc, la seule base maritime russe était en Syrie, soutenue par Bachar al-Assad.
Ouais.
Donc, pour l'instant, d'ailleurs, cette base navale va rester là. Mais c'est le seul point d'assise en Méditerranée pour la Russie.
Mm-hmm.
Donc, ils soutenaient fortement le régime Assad. Et je peux vous dire un petit peu clairement que les États-Unis soutenaient pas le régime Assad pour des raisons assez évidentes. Il y a le conflit chiite-sunnite. Oui, parce que la Syrie, c'était Bachar al-Assad est un chiite qui contrôlait une population majoritairement sunnite. Donc, juste vous rappeler, chiite, sunnite, c'est une division au sein de l'islam. C'est une différence entre le prophète Mohammed, associé au prophète Mohammed, bref. Ouais. C'est une différence de croyance islamique. Et bref, c'est historiquement, ça a causé certains conflits. Et les pays qui sont chiites ou sunnites sont généralement pas très alliés. Il y a une majorité sunnite dans cette région du monde, comparativement à une minorité chiite. Donc, il y avait une volonté forte de la communauté chiite, justement, de maintenir un pays chiite en Syrie, ce qui va pas arriver.
Ouais.
Petit rappel, les forces kurdes, qui sont en ce moment, c'est ça, en Syrie, qui était la force, qui était vraiment la pointe de lance contre l'État islamique. Après c'est ça, la chute du gouvernement Assad, les États-Unis ont diminué de 2000 à 900 soldats américains déployés en Syrie pour lutter contre l'État islamique aux côtés des forces kurdes. Les forces kurdes sont aussi en possession de multiples prisonniers djihadistes qui n'attendent que d'être libérés pour lutter de nouveau aux côtés de l'État islamique. Il ne faudrait pas que la Syrie devienne un nouveau berceau de la montée djihadiste. Donc, c'est ça. C'est un petit peu en suspens. Tout le monde regarde. Évidemment, Donald Trump souhaite de moins en moins s'impliquer dans tous les conflits internationaux. Il est vraiment dans une volonté isolationniste, protectionniste. Que les États-Unis fournissent eux-mêmes toutes leurs ressources et qui arrêtent de s'impliquer dans des conflits parce qu'ils disent qu'ils donnent de l'argent à tout le monde puis ça les aide pas. Donc, je suis vraiment curieux de voir ce qui va arriver avec la Syrie. Je souhaite vraiment qu'il y ait un gouvernement de transition efficace qui soit mis en place. La France a dit, entre autres, qu'il allait possiblement soutenir justement Al-Julani à mettre en place c'est ça, un gouvernement, tout dépendant si ça respectait les valeurs fondamentales françaises associées, entre autres, à la condition humaine. La France ne va pas encourager un gouvernement misogyne, discriminatoire. En tout cas, c'est ce qu'ils disent.
Qui
respecte les droits de l'homme.
C'est ça, les droits de l'homme, parce que je pensais que tu disais qu'il respecte la France, qu'il faut qu'il prête serment à Emmanuel Macron. Je trouvais ça drôle, mais
non.
Que ça soit peut-être des valeurs peut-être un petit peu plus occidentales dans ce cas-ci.
Oui, donc je suis vraiment curieux de voir comment ça va se développer. Et je pense qu'il y a quand même une bonne idée de limiter l'intervention occidentale quand même. On va arrêter. Faut arrêter l'impérialisme un petit peu, quand même. Là. Un petit peu. Faut arrêter l'impérialisme, ça n'a pas d'allure.
Donc, voilà pour ça. Merci, Jérémy. Rapidement, est sorti dans les derniers jours quelques petits sondages politiques. Et le départ de Justin Trudeau a peut-être fait du bien aux libéraux plus qu'on pouvait le penser. En fait, ça dépend à qui on demande. Mais pour plusieurs sondages, notamment chez Écos, il y a une remontée en flèche du Parti libéral. Dernier sondage donnerait le Parti conservateur à 36 % et le Parti libéral à 33 %. Ce qui voudrait dire un gouvernement minoritaire conservateur avec une opposition du Parti libéral maintenant que Justin est parti. Mais si on se fie aux autres maisons de sondage, ça s'est pas encore ressenti parce qu'on parle encore d'un 43-42 Parti conservateur contre un 25, même 22 lorsqu'on n'est pas généreux pour le Parti libéral. Donc une vraie différence de 20 points. Mais selon, Écosse notamment, qui eux observeraient plutôt la tendance inverse, que maintenant que Justin Trudeau n'est plus dans le décor, ce serait une remontée historique du Parti libéral. Donc, reste à voir ce que ça donnera. Peut-être est-ce que finalement la soirée électorale sera un peu plus excitante parce qu'on ne saura pas qui est le gagnant. Mais c'est sûr que en ce moment, ce serait quand même le Parti conservateur de manière assez importante. Mais il y a une baisse qui est à noter tout de même depuis deux semaines de quelques points de pourcentage. Pas assez pour faire en sorte que ça devienne minoritaire, mais au global, il y a quand même une diminution chez les conservateurs et une augmentation chez les libéraux, maintenant que Justin n'est plus là. Et c'est là-dessus que ça va se terminer pour cette semaine. Merci beaucoup, Jérémy, d'avoir été
là.
Merci,
Alex.
On se donne rendez-vous dès lundi prochain pour une autre édition du 9 et personnellement, demain, vendredi, 11h, pour le deuxième service. À la semaine prochaine, à vendredi, à la prochaine. Salut!